Amen. Je vous salue, mes bien-aimés. Vraiment, c'est avec un énorme plaisir que je me retrouve aujourd'hui encore ici, parmi vous, et que j'ai ce privilège de m'adresser à vous. Quand le pasteur m'a demandé il y a 2 mois, quand je lui disais que je serais du côté du Mans pour des raisons professionnelles, et que dimanche, je participerai au culte avec vous. Vraiment, j'ai failli sauter dans mon lit quand il m'a dit, est-ce que tu veux prêcher? J'ai dit, ouais, et comment que je veux prêcher, pasteur? Il dit, ben, parce que ce dimanche-là, justement, il y a... Voilà, donc, je n'ai eu sans cesse de penser que je serai au milieu de vous aujourd'hui. Vraiment, je suis la plus heureuse. Et j'étais très contente aussi quand... Le journal est sorti et que j'ai reçu quelques appels des uns et des autres pour manifester leur joie du fait que nous nous reverrons aujourd'hui. Donc vraiment, je vous en remercie, ça m'a fait très très chaud au cœur. Voilà. On va essayer de ne pas être vraiment trop long, mais je vais essayer de partager avec vous vraiment ce que le Seigneur a mis à mon cœur. On va d'abord le louer par ce petit chant que j'ai envie de faire pour célébrer ma consécration, mais je suis sûre la vôtre aussi. Yahweh, ton peuple est là. Yahweh, ton peuple est là, rassemblé, rassemblé pour te louer, t'adorer, t'exalter. Papa, papa, tes enfants sont là. Papa, tes enfants sont là, rassemblés, rassemblés, pour te chérir, te prier, faire ta volonté. Jésus, Jésus, tes disciples sont là. Jésus, tes partenaires sont là, rassemblés, rassemblés pour te servir, te célébrer, marcher dans tes pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tes temples sont là. Saint-Esprit, les envoyés sont là, rassemblés, rassemblés, pour œuvrer avec Père, en le Fils, équipe-nous. Amen. Saint-Esprit de Dieu, équipe-nous. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes rassemblés là, aujourd'hui pour prier, Père. Pour prier au nom de Jésus, pour faire ta volonté, papa, pour célébrer notre Seigneur Jésus, pour marcher dans ses pas. Tes envoyés sont là, papa. Seigneur, tu as entendu les prières. Seigneur, tu as entendu les doléances. Père éternel, tu as entendu l'appel. Saint-Esprit de Dieu, viens équipe tes temples, remplis tes temples, œuvre au travers de nous. Nous sommes là, consacrés, parce que nous disons, nous sommes tes ouvriers. Envoie-nous, équipe-nous, agis au travers de nous, afin que le règne de Père vienne, et que sa volonté soit faite, et que notre Seigneur Jésus soit glorifié, et que nous ne cessons de te célébrer, de te louer. Accorde-nous l'exaucement de nos prières, Père éternel. Ô Dieu de miséricorde, béni soit ton saint nom, aujourd'hui et toujours. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, parle par ma bouche, donne une parole de vie à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit tour dans le calendrier divin. Vous savez, nos vies, nous avons des vies de programmation. Nous programmons tout. Dimanche, je vais faire ceci. Mardi, je vais faire cela. Et des calendriers, les dictionnaires définissent le calendrier comme étant un outil que nous nous fabriquons qui définit un ordre chronologique des choses que nous trouvons important à faire, mais qui prend en compte les temps, les semaines, les mois, les saisons, etc. On peut découvrir des calendriers civils. C'est le 1er janvier, 31 décembre. Ce calendrier civil, nous le savons, a été fait par les Romains, parce que c'est eux qui ont donné la première structure administrative des cités, et comme ça leur convenait. Et ça donne des jours. Et à partir de ce calendrier de saison, chacun prend et fait un peu comme il veut. Le calendrier administratif, vous allez trouver les dates pour faire des impôts, pour enregistrer, pour déclarer ci, pour déclarer ça, pour solder l'année, pour faire les bilans, etc. Les calendriers scolaires, on va trouver à quelle période on va à l'école, ça s'achève, les vacances et tout. Les calendriers, même saisonniers pour les agriculteurs et tout, c'est la saison de ci, c'est la saison de ça, etc. Le calendrier religieux, bien sûr. Le calendrier liturgique, à cette période, période d'avant, période de 6, période de ça, on a déjà tout programmé, on a tout calé, etc. Et nous-mêmes à la maison, le calendrier des fêtes, le calendrier des horoscopes, le calendrier de tout. Mais nous pensons que nous sommes des très grands programmeurs. Mais Dieu est plus programmeur que nous. Il a un calendrier divin. C'est un Dieu de planification. Lui planifie les choses de l'origine jusqu'à la fin. Lui, il a un grand calendrier et dans lequel il nous a impliqués. Depuis le... Si nous levons aujourd'hui et que nous jetons un coup d'œil dans le calendrier divin, nous nous rendons compte d'une chose. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Les temps, les saisons, les jours... Rien n'est au hasard avec Dieu. Il programme, il planifie les choses, il est construit. Mais bizarrement, son calendrier n'est pas figé comme le nôtre. Son calendrier est tellement évolutif. Parce qu'il veut que nous revenions sur les choses pour pouvoir nous nourrir de lui, pas de nous. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait, nous savons que Dieu fait des choses. Il nous dit dans la Bible, avec lui, il fait toujours des nouvelles choses. Donc son calendrier est sans cesse en mouvement. Il a l'air déjà établi, mais il est continuellement en mouvement. Et j'ai envie que nous nous arrêtons en cette saison. À quel moment nous sommes là? Nous sommes dans une saison assez particulière. La saison de la Pâque à la Pentecôte. Et c'est une période pour nous qui nous revendiquons de Christ. Pour nous qui nous... déclarons chrétiens. C'est une saison toute particulière. Et je voulais qu'on aille à l'intérieur faire un petit tour. Vous savez qu'en plus, cette période coïncide avec le début de l'année divin. Dans Exode 12, ce verset 1, 2 et même les suivants, il dit quelque chose à Moïse. Il dit à Moïse, il donne un ordre à Moïse, après avoir réglé le problème de Pharaon et de l'Égypte sur son peuple pour la délivrance, avant de les libérer, parce que il leur dit ça avant d'accomplir la 10e plaie. Avant de les libérer, il donne une instruction particulière. Il donne son instruction pour sa Pâque. Il donne son instruction à son peuple pour l'acte salvateur qu'il allait poser et que jusqu'aujourd'hui nous commémorons encore. Il ordonne néanmoins à l'autre que vous, désormais, vous allez considérer ce mois, le mois dans lequel ils étaient, ce mois de la Pâque, vous allez le considérer comme étant le premier de l'année. Ça veut dire que Dieu établit une priorité dans les choses. Avant, je ne sais pas, moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu, peut-être certains l'ont vu. Avant, je n'ai pas vu qu'il avait donné un ordre particulier sur les années. Mais les hommes s'étaient fait un calendrier en fonction de ce qu'ils voulaient faire, les saisons, etc. Mais là, il s'arrêtait et disait, désormais, vous allez suivre un plan. Vous allez considérer ce mois comme le premier de l'année. Donc, nous les chrétiens, nous devons penser que ça démarre quelque chose de particulier avec le Seigneur. Nous en sommes sans doute conscients. C'est tellement important pour cette période parce qu'il leur a demandé de célébrer la Pâque et ça sera la Pâque de l'Éternel. Et on sait que cette Pâque s'est renouvelée d'année en année jusqu'à la venue de Christ. Mais qu'est-ce que notre Seigneur Jésus est venu faire? Lui aussi, il s'est soumis à ce calendrier. Lui aussi, il est venu accomplir cette Pâque en lui-même, à la même date, et ça n'a rien changé. Et quand il a rassemblé son peuple pour leur dire, « Vous ferez cela en mémoire de moi », il n'a rien changé à la date. Donc, quel que soit nos calendriers humains que nous faisons, il y a un calendrier divin qui est important pour le chrétien de prendre possession de ça. Amen. Dans cette saison, je vais aller dire du début de ce mois, qui est le premier mois pour Dieu, jusqu'à la Pentecôte, est une saison assez particulière. Vraiment. Jésus, c'était tellement particulier pour Jésus que quand le temps fut venu pour lui de respecter à la lettre ce calendrier, parce qu'il devait lui-même devenir la Pâque, il s'est arrangé à être là au moment où ça devait faire et à suivre ça progressivement. Les années, on sait que notre Seigneur Jésus a eu 3 années de mission. C'est pas qu'il n'y avait pas de Pâque en ces saisons, mais il savait que son temps, le temps de rentrer dans la plénitude de sa mission n'était pas arrivé. Donc, à ces périodes même, il fuyait, il se détournait les pharisiens qui voulaient l'attraper depuis. Quand on célébrait la Pâque à Jérusalem, à un moment à la Bible, on dit que ses frères lui ont dit, bon, allons à Jérusalem. Il a dit, vous partez, mon temps n'est pas encore arrivé. Donc, il est arrivé en catimini, il s'est mêlé aux gens pour célébrer la Pâque parce qu'il sait que devant Dieu, c'est un rendez-vous important. Donc, quand il est arrivé pour célébrer, depuis son entrée à Jérusalem, il a pris ses dispositions. Il savait qu'il avançait dans une marche particulière. Une marche, moi j'ai appelé la marche de percée. Il savait que là où il allait dans Jérusalem, depuis le premier jour où il a pris l'anneau attaché et qu'il est entré, qu'on l'a appelé le roi de gloire, Hosanna, Hosanna, il entrait dans un processus qui allait changer les choses. Il savait qu'il partait pour opérer une attaque triomphale. Il savait qu'il partait pour mener une estocade à l'ennemi. Il savait qu'il entrait là à Jérusalem pour procéder à une inversion de situation. Les choses allaient changer. Il savait qu'il rentrait pour aller récupérer les droits qui avaient été volés à nous, parce que Dieu nous l'avait remis et nous, par nos ancêtres Adam et Ève, on a cédé à Satan. Il allait pour récupérer cela. Il allait pour rétablir la véritable autorité qui est la sienne, qui est celle de Père. Et il allait pour rétablir l'autorité divine des choses. Il savait ça. Et il entrait dans un processus particulier. Lorsque vient l'approche de la Pâque, nous savons que le repas qu'il a partagé, il ne commémorait pas la Pâque. Il avait un souper avec ses apôtres, la veille de la Pâque. Mais il les rassemblait pour leur donner des instructions particulières par rapport à ce qui allait se passer et tout ce qui allait se poursuivre. Donc, ce rendez-vous que nous commémorons en partageant la scène, c'est un acte qu'il a posé à un moment où il était en confraternité avec les apôtres. Mais l'intérêt même de ce qu'il était en train de leur montrer devait venir. Ça allait se passer à la croix. Et il leur disait, vous ferez cela en mémoire de moi. Gardez en souvenir, parce que je serai là pour peut-être vous le rappeler, etc. Gardez en souvenir que ce que je vais faire à la croix, c'est à ça que je vous appelle. C'est à ça que je vous connecte. Et ce qui est particulier, c'est que moi j'ai envie d'inviter les chrétiens à avoir un regard de discernement sur cette période, oui, sur l'œuvre à la croix de Christ, sur cette commémoration que nous faisons tous les jours, et plus particulièrement en période de Pâques. On a partagé la scène, là, en confraternité. Ça a été un moment de prière, de partage. J'ai envie de vous interpeller à vraiment prendre conscience que maintenant que Jésus allait à la croix et a accompli son œuvre, j'ai envie que l'on puisse déporter l'impact de cette scène, l'impact de cette période, sur la simple commémoration, sur le simple souvenir que nous pouvons avoir de ce que Christ a fait à la croix, et de réaliser qu'à chaque saison, il s'agit de l'œuvre à la croix. Sautons la veille et allons au lendemain. Transportons-nous de la veille du souper et allons à la croix nous investir du véritable sang et de la véritable chair. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que moi, quand je lis, par exemple, ce verset qui nous dit « Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que moi, je comprends, c'est que Jésus veut nous dire à chaque fois, c'est quelque chose de neuf. À chaque fois, c'est quelque chose de présent. À chaque Pâques, c'est une Pâque. Ça veut dire que moi-même, je vous rendrai particulièrement visite à cette période-là, à la croix du calvaire. Je vous invite à être dans cette pensée et de vous dire que dans la saison de la Pâque, Jésus-Christ lui-même est là. Et que même les choses qui pouvaient nous sembler difficiles, les choses qui pouvaient nous sembler lourdes, prenez conscience que vraiment vous êtes dans une saison particulière, une saison favorable pour tout demander. Pour tout demander. La saison de Pâques est une saison de rachat. Et quand on dit le rachat, on n'a pas dit c'est une saison d'achat. Parce que quand tu dis tu achètes, c'est une fois, non? Rachat, c'est une répétition. Et lui-même, il a dit de sa bouche, vous ferez cela. Pourquoi? Parce que si vous obéissez à ce que je vous dis, et que vous venez à ma commémoration, je suis présent. Je ferai ce que j'ai envie de faire au travers de vous.
Amen.
Si tu prends conscience que dans cette saison de la Pâque, Christ est là, et que toi-même, tu es assis là comme Pierre, Paul, Jacques, Jean, avec lui, plus qu'à un autre moment, tu saisis une grâce qui est particulière. Ça, on la voit. Paul nous instruit dans 1 Corinthiens 11, 29. Il nous explique, parle de la scène. Il dit que celui qui n'a pas... ne discerne pas le corps de Christ, etc., ne devait pas prendre. La plupart du temps dans les églises, on dit, oh, c'est pour les gens qui n'ont pas confessé Christ. Oh, c'est pour les gens qui n'ont pas... Sans doute, c'est tout à fait vrai. Mais moi, je vais plus loin dans le discernement du corps de Christ. C'est-à-dire que celui qui ne prend pas véritablement conscience de cet impact particulier du moment, il pêche. Pourquoi est-ce qu'il pêche? On sait que le péché, ça veut dire s'éloigner de la grâce de Dieu, s'éloigner du but de Dieu dans la vie. C'est-à-dire, il y a une chose qui doit être accomplie en cette saison. Quand tu ne la saisis pas, tu pêches puisque tu vas à côté. Tous ceux qui ne prennent pas conscience véritablement et possèdent la grâce qui est dans cette saison, pêchent, puisqu'ils seront à côté de ce que Dieu a déversé en cette saison. Donc le discernement doit aller beaucoup plus loin qu'une simple, j'allais dire, formalité, aussi pieuse qu'elle soit. Ne considérons plus la scène comme un acte de piété, comme un acte de souvenir ou de célébration. Vraiment, considérons ça comme un rendez-vous particulier avec la grâce à la croix du Christ. Amen. Moi, j'ai toujours vu une chose. Dieu, dans la Bible, j'étais enseignée sur le sang. Le sang effusé à la croix, le sang frais, le sang qui permanemment coule à la croix. Parce que vous savez, moi, je pars du principe que tu prends le sang de Jésus aujourd'hui. Ça efface les péchés d'aujourd'hui parce qu'on nous a dit que nous sommes pécheurs et que nous sommes toujours pécheurs. On est d'accord. Quand Jésus nous dit, prends ta croix et suis-moi dans la marche que nous allons faire ensemble. Prends ta croix là. Je suis arrivée à me convaincre que c'est parce que le sang frais coule à la croix tous les jours. Donc quand tu la prends avec toi, chaque pas que tu fais, même dans le péché, le sang nouveau va être sur toi. Le sang nouveau va couler. Parce que le sang d'hier, dites-vous une chose, le sang qui a déjà lavé le péché est sale. Il est parti avec le péché. Parce que le sang à la croix est rouge vif. Mais le sang du péché est cramoisi. Le cramoisi est rouge sang. Quand vous voyez même le sang, même en tant que scientifique, il y a un sang qui sort. Quand il sort du corps, il est rouge. Quand il reste à l'air, c'est-à-dire en contact avec l'atmosphère polluée, qu'est-ce qu'il devient? Tout noir. Parce qu'il a pris ça. C'est pareil tous les jours. Mais Jésus lui dit, c'est tous les jours que vous devez prendre mon sang à la croix. Le frais là, qui arrive comme ça, et vous sanctifie de nouveau. Amen. Dans la saison de rachat, Jésus dit qu'il vient racheter. Et il vous donne un rendez-vous annuel, régulièrement, pour racheter toutes ces choses qui sont restées en instance dans vos vies. Qu'est-ce qui peut ne pas être racheté par le sang de Jésus? Qu'est-ce qui peut ne pas être racheté? Nous prions, nous supplions, nous pleurons, nos malades, nos machins et tout, c'était nos maladies. Qu'est-ce qui peut ne pas être racheté par le sang de Christ? C'est la saison où chaque chrétien se lève et se tient droit. J'ai envie de dire vraiment, tu n'as pas besoin de ton frère. Il a dit que si notre foi est petite comme le grain de sénévé, nous déplaçons les montagnes. C'est une saison particulière où j'ai envie de vous inviter vraiment à vous tenir devant votre Seigneur et vous dire telle situation, ici et maintenant. Je prends de cette grâce qui se déverse à la croix. Je prends de cette grâce qui se déverse dans cette saison. Et j'en fais le mien. Revendiquez vos droits. Parce que le droit a été libéré à la croix. Qui vous empêche de les posséder? C'est l'ennemi. C'est pas Dieu. C'est pas Jésus encore. Il a tout fait. Il vous a même donné un rendez-vous. Il a dit qu'il reviendra, il reviendra, il reviendra. Pour ça. Donc c'est pas lui. Mais si vous vous dressez, et que vous dites à l'ennemi que cette turpitude cesse parce que vous revendiquez vos droits à la croix et vous possédez vos droits à la croix, je vous assure, mes frères et sœurs, nous aurons de plus gros témoignages. Nous aurons de plus gros témoignages. Ne nommez pas vos maux. Dans ma famille, on est très malade. C'est vrai que c'est le constat qu'on fait. Mais si tu assises parmi nous aujourd'hui, ma sœur, c'est parce que tu as le fardeau de ta famille. Et quand Dieu donne un fardeau, il donne l'autorité. Amen. Tu te lèves chez toi-même dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, parce que tu m'as établi là-bas, je me lève pour tous ces malades. Et aujourd'hui, toi et moi, je revendique mon droit. Satan, toi et tes maladies. Toi et tes maladies. Aujourd'hui, par le sang versé à la croix, je possède la guérison de mes frères et mes soeurs. Amen. Tu sors, tu les lâches. Ils guérissent au nom puissant de Jésus. Quand ça a été fait à la croix, Dieu a relâché tout. Nous, les chrétiens, nous devons nous lever. Et rien que posséder, Jésus nous a fait co-héritiers de l'héritage de Dieu. Il a dit, Dieu, Père m'a tout donné. Et moi, je vous donne. Il a partagé son héritage. Et l'héritage de Jésus n'est pas une partie de ce que possède Dieu. C'est son fils unique. Donc, même les hommes ont compris que c'est les enfants légitimes qui ont tout l'héritage, oui ou non. Il a tout cet héritage. Il le possède. Et il dit, je vous aime tellement que je vous fais co-héritier. Que chacun de vous se dise une chose. Je suis le co-héritier de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Moi, si vous voulez, chacun le dit. Quand je dis que je suis co-héritier de Christ, je dis moi, il m'a donné. Donc il garde la moitié, il prend la moitié. Et je possède. Lèvez-vous et dites ça pourquoi? Parce que Père est riche. Ça ne peut pas finir. Jésus est riche. Son sang à la croix est éternel. Ça ne peut pas finir. Ne soyez pas timorés pour aller prendre de ce sang. Ça ne finira pas. Parce que Dieu, lui, il a un calendrier du début à la fin. Il sait. Donc quand nous nous levons, j'ai envie de dire, il y a des moments où nous devons faire des complaintes. Il y a des moments où nous devons nous plaindre. Parfois, ça peut arriver. Il y a des moments où nous devons... Parce que parfois, quand on pleure trop et on prie Jésus, Dieu le suppliant, etc., il doit se dire, mais moi, je t'ai fait quoi? J'ai tout libéré. Parce qu'il faut prendre conscience que ton ennemi, c'est l'autre. Ne perdons pas de vue l'adversaire. Jésus, notre Seigneur, nous a dit qui il était. Quand il est parti à la croix, si nous sommes tous des disciples, nous lisons la Bible. Quand à Gethsémané, après les apôtres, il est allé prier. Et quand il a accepté la mission, il a déclenché un processus de victoire. Cette victoire est la nôtre, mes frères et sœurs. Et quand il s'est levé, il a dit aux apôtres, je l'ai vu tomber du ciel. Ça veut dire que le processus de destruction de Satan avait commencé. Avant même que Jésus n'aille à la croix. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à son père, je boirai de cette coupe. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, moi je pars. Parce que je vais accomplir justement ce processus. Moi je pars. Le prince du monde vient. C'est-à-dire le troubleur là. Celui qui dérange là. Celui qui va bien vous déranger. Mais sachez une chose. J'ai vaincu pour vous.
Amen.
J'ai vaincu pour vous. J'ai vaincu pour vous. Prenez conscience de cela. Et dites-vous que ce n'est pas que Jésus est absent par moment. Je suis seulement en train de dire que en cette saison où il a demandé verbalement, faites cela en mémoire de moi. Revenez particulièrement vers moi à cette saison. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a un mystère divin là. Que nous les chrétiens, c'est notre lot. Allons le chercher. Ne le faisons pas comme une histoire qu'on raconte. Discernons le corps du Christ au travers ce que nous faisons. Ne posons pas les gestes juste pour poser. Discernons le corps du Christ. Ayons conscience qu'il est en train de faire quelque chose. Cette saison est une saison de rachat. Rachetez tout. Prenez un papier, écrivez les situations qui vous embêtent, sur lesquelles pendant toute l'année vous avez essayé de vous dépatouiller. Posez ça là et dites c'est le rachat. Rachat, le sang de Christ, maintenant. Je suis racheté de nouveau. Rachat, écrivez même dessus, rachat par le sang de Christ. Brûlez si vous voulez. Parce que vous savez de quoi Satan a le plus peur dans le chrétien? Ce n'est pas parce que vous venez à l'église ou que vous priez beaucoup ou quoi que ce soit, non. Il sait ce qu'il attend. Il n'a même pas peur d'aller se poser devant Dieu. Job nous l'a montré, il vient. Parce qu'il sait ce que Dieu a déjà fait de lui. Il n'a pas peur de Jésus. Nous-mêmes, nous l'avons vu 40 jours de jeûne et il vient. Il n'a pas peur de ça. Ce qu'il regarde dans le chrétien, c'est si tu es conscient de qui tu es. Quand il regarde, il dit que bon, il n'a pas encore compris. Il agit avec fermeté dans ta vie. Mais quand tu as compris qui tu es, quand tu as compris quel est ton héritage, quand tu as compris de qui tu dépends, quand tu as compris et que tu cherches même à comprendre tout simplement les mystères de Dieu, à te rattacher, il se met loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu vas te tourner, et lui dire, il est écrit, dégage de ma vie. Il n'a qu'une seule chose, il fléchit les genoux. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui se lève en toi.
Amen.
Et quand il voit Christ en toi, maître, tout genou fléchit et toute langue confesse. Il n'y a pas d'exception, même lui. Prenez conscience de ça. C'est aussi une saison de revêtement. C'est une saison où Jésus change l'équipement. Dieu dit qu'il renouvelle les choses. Si vous voulez une notion particulière, une croissance identitaire, c'est une saison où tu demandes à Dieu, je veux croître de nouveau, je veux évoluer encore d'un pas dans ma vie spirituelle, dans ma
connaissance de la parole, dans ma communion avec toi. Si tu as un ministère, c'est la saison favorable pour venir devant Dieu et dire, je veux un revêtement nouveau, Père, pour passer à une autre étape. Parce que c'est en cette saison qu'il préparait ses apôtres pour les revêtir d'une onction particulière pour ceux pourquoi il les envoyait. Amen. C'est la saison de l'onction. Allez prendre l'onction pour faire ce qu'il y a à faire. C'est la saison de la commission. C'est la saison aussi où vous prenez vos instructions pour l'année à venir. On vous a dit que c'est le début de l'année pour Dieu. C'est aussi une saison favorable pour que vous saisissez ce que le Seigneur attend de vous pendant cette saison pour avancer. Donc, nous savons de façon générale ce que Jésus nous a demandé de faire. Il a dit, allez, annoncer la bonne nouvelle, parler aux nations et faites des disciples. Vous aurez ci, vous aurez ça. C'est ce qu'on appelle les instructions générales pour l'Église de Dieu, pour l'ensemble des croyants. Mais à chacun, Jésus est en train d'assumer un plan, d'assumer un travail que Père lui a donné. Et il nous a fait partenaire de ce travail. Donc, c'est comme un chef de chantier. S'il doit construire, quand tu vas vers Père, et que tu dis, Père, vraiment, je veux être ouvrier avec toi dans ton œuvre, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, bon, va voir le grand frère. Je lui ai donné toutes les instructions pour ça. Donc, quand tu reviens en disciple auprès de Jésus, Jésus te confie la tâche qui est la tienne. D'aucuns dans les fondations, les autres aux fenêtres, les autres électriciens, les autres... C'est comme ça qu'on construit une maison. Quelle est ta tâche? Cette maison va servir à quelque chose. Où nous tous nous sommes appelés. Annoncer la bonne nouvelle, faire l'évangile, oui. Prier, louer, oui. Mais pour façonner cette maison, quelle est ta tâche? C'est la saison favorable pour aller devant Dieu et demander au Seigneur. Que tu sois déjà dans une mission ou que tu ne saches pas encore de quel côté aller. C'est une saison favorable pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Je suis dans ta maison. Je ne veux pas être inutile. Je veux être un ouvrier. Et je vous assure, la tâche de monsieur et madame sont dans la même maison. Mais leur tâche, il y a des niveaux de tâches qui incombent à chacun. Et c'est dans sa communion personnelle avec son Seigneur. Chacun de nous, c'est comme ça. Et si nous voulons vivre notre vie de foi avec toi, cherchons à connaître quelle est notre tâche avec notre Seigneur Jésus-Christ dans l'œuvre de Dieu qui va amener son règne. Amen. Amen. C'est une saison encore, et ça, je vais finir par ça. Vous savez, quand... À la croix, quand Jésus est mort, quelqu'un s'est déjà demandé un jour pourquoi Jésus était ressuscité le troisième jour et tout, et qu'il est encore resté, il est monté au ciel que le 40e jour. Parce que ça, il a traversé un peu l'esprit. Moi, je suis curieuse, hein, comment elle dit la Bible, vraiment, je vais aller. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a derrière. J'ai dit, mais il était déjà ressuscité, il avait déjà dit tout à ses disciples, etc. Pourquoi il était encore là au milieu? On l'a vu apparaître plusieurs fois à ses disciples, faire plein de choses, jusqu'au jour de l'ascension.
Parce qu'il aimait bien être avec ses disciples.
Oui, on peut croire, mais il avait un appel qu'il attendait encore plus au niveau du ciel. Puisque lui aussi, il avait, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que les choses là, dont la raison de son voyage était là-haut. Pas à ses disciples, il avait déjà fait beaucoup de choses. Mais il faut, moi j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce quand Jésus est resté, qu'est-ce qu'il a fait? Les 40 jours là, il les a occupés comment? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il avait à cœur de consolider ses disciples. Vous savez, après sa mort, il était conscient que ça a bousculé. Beaucoup sont découragés. On a vu ces 10 apparitions, m'ont amené un témoignage assez particulier. Il y avait des personnes qui étaient contre, je prends Marie-Madeleine. Elle est venue, elle voulait embaumer son maître. Vous l'avez tué, oui, mais il ne peut pas être enterré comme ça. Elle avait attendu tout le week-end. Vous imaginez une femme. Elle avait déjà pleuré toutes les larmes de son corps. Et elle venait comme ça pour l'embaumer. Bon. Les autres, les apôtres sont arrivés. Ils ont vu que Jésus n'était plus là. Ils sont repartis. La Bible dit qu'ils sont tous repartis pour se cacher. Parce qu'ils se disaient que l'affaire va être grave. Mais Marie-Madeleine a dit quoi? Moi ici. Le cœur contrit. Jésus est venu distribuer une sorte de grâce dans cette saison. La grâce des cœurs contrits. Quand quelque chose vous fait mal, je vois les larmes de ma sœur quand elle évoque la maladie de sa famille. Tu as un cœur contrit, va dire à Jésus que tu veux la grâce de Marie-Madeleine. Tu veux la grâce de Marie-Madeleine. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que Marie-Madeleine a fait. En restant en pleurs au tombeau et en demandant à tout le monde, qu'est-ce que vous avez fait de mon maître? Ça a stoppé Jésus dans sa course. Jusqu'à Jésus est venu vers elle en disant, ne me touche pas, parce que moi j'étais en train d'aller au ciel pour déposer ce que je suis allée récupérer dans les ténèbres. Mais il s'est arrêté pour dire à Marie, pour calmer son cœur, apaiser son cœur, et lui dire, va dire à mes frères et mes sœurs que ce dont je leur parlais depuis là, ça a commencé. Vous voulez avoir des cœurs contrits? Des choses vous touchent? Demandez la grâce de Marie-Madeleine. Pour un corps vraiment contrit pour les choses de Dieu. Amen. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Regardez les disciples d'Emmaüs. Voilà à l'exemple de quelques disciples. Ils avaient quitté leur pays. Ils ont suivi Jésus. Imaginez derrière Jésus. On arrive à Jérusalem. Ça se passe une qualité. Ils meurent. Ils étaient désemparés. Désemparés. Vous imaginez deux personnes qui... ne sachant même plus aller. Mais ils s'interrogeaient, ils étaient perdus, et Jésus leur est apparu. Pourquoi? Pour les affermir, pour leur rouvrir l'intelligence, et pour leur dire, je suis venu faire ça, c'est de ça que je vous parlais depuis, mais les choses ne font que commencer. Parce que quand ils ont reconnu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont plus repartis à Emmaüs. Ils sont retournés à Jérusalem, gonflés à bloc, en se disant, nous sommes en marche pour notre maître. Amen. Amen. Quelle que soit la situation qui vous perturbe, en cette saison, je vous assure, demandez la grâce des disciples d'Emmaüs. Cette grâce, il est venu la distribuer aux effrayés, apeurés. Quand il apparaît aux apôtres, ils étaient tout à... On dit qu'ils avaient la frayeur. Il est venu donner la paix. Il a dit que la paix soit avec vous. Il est venu les rassurer. Qu'est-ce qui te dérange? C'est la saison du rachat. Prends cette grâce au nom de Jésus. Aux incrédules comme Thomas, aux personnes qui n'ont plus de foi pour certaines situations qui ont trop perduré, recevez la grâce qui est dans les incrédules. D'une foi ferme, priez pour demander cette grâce-là. Aux découragés, aux impatients. Parce que figurez-vous que même quand les apôtres ont vu que Jésus était là, à un moment donné, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a dit vraiment, moi je retourne pécher. Moi je retourne pécher. Moi je suis un pécheur. On était venu me trouver dans cette situation. Le temps passe. Ça a mis 40 jours. Ça peut décourager plus d'un. Le temps passe. Et il était reparti de pêcher. Bien sûr, comme il était le chef de troupe, tous les autres qui étaient d'abord avec lui, Jean, Jacques, et tout, ils l'ont suivi pour aller pêcher. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient, qu'ils n'étaient plus des pêcheurs de poissons. Jésus avait fait des pêcheurs d'hommes. Ils sont allés pêcher avec leur propre force, avec leur capacité, leur expertise et tout. Ils n'ont rien pêché. Et il a encore fallu que Jésus vienne pour leur donner des instructions, pour leur dire, lancez à droite. Quand ils sont revenus sur la berge et qu'on a fait comprendre à Pierre que c'était le maître, la Bible dit une chose. La Bible dit qu'il s'est rhabillé car il était nu. Moi, ça m'a travaillé. J'ai dit, quand nous entrons pour faire des choses, sachant que nous sommes nus, Quand nous voulons agir sans l'instruction de Dieu, nous sommes nus, mes frères et mes sœurs. Laissons que Jésus nous revêtisse de son revêtement spécial pour agir. À ce moment, nous agirons. Il dit que nous sommes le sarment. Chaque fois, ça doit nous animer. Amen. Amen. Pendant toute cette période, il a fait ces choses jusqu'à... Nous avons lu le texte tout à l'heure, jusqu'au moment où il a demandé... Il a dit qu'il allait les quitter et qu'il partait dans les cieux, qu'ils devaient rester ensemble jusqu'à ce qu'il leur envoie le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette saison particulière de la Pâque à la Pentecôte est une saison où le chrétien doit particulièrement se lever, se mobiliser. Prenez des jeûnes s'il faut. Prenez un temps de prière. Ne considérez pas cette saison comme une saison classique, comme un autre temps. C'est un temps où vous vous ressourcez profondément et que vous prenez vos instructions. Et je vous assure, si vous vous rapprochez du trône de grâce, vous recevrez la grâce. Amen. Si vous cherchez, il a dit cherchez, et vous trouverez. Demandez, on vous le donnera. Ça veut dire si tu te mets devant Dieu, tu prends un temps de jeûne, de méditation, de la prière, parce que Seigneur, je veux tes instructions pour cette année. Je veux tes instructions pour le Saint-Esprit. Et là, il va t'éclairer. Tu vas sortir de cette saison avec la ferme assurance de quelque chose. Avec une instruction ferme, particulière, qui te concerne, pas ton voisin. Et c'est sur cette assurance que tu vas marcher tout le long de l'année. Par rapport à ce que tu lui as présenté, il va te guider. Par rapport à ce que tu ne savais même pas, il va te dire. Mais il faut chercher, il faut aller demander. Il ne peut pas laisser quelqu'un qui a soif sans lui donner ce pain, sans lui faire boire de cette eau. Amen. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vais juste prier pour finir ce message. Priez vraiment pour que les uns et les autres qui se mettent dans ce temps, vous savez, ce n'est pas fini. L'ascension, c'est le 25 mai. Nous sommes le 14. Il y a encore 11 jours pour attraper ce qui est libéré. Pour ne pas passer vide à la Pentecôte. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup qui passent vide à la Pentecôte. Ils ratent l'opportunité du renouvellement de cette onction du Saint-Esprit en eux. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, c'est écrit dans la Bible. Mais franchement, si nous ne nous offrons pas comme des temples, le Saint-Esprit ne remplira rien. Ça se quête, ça se demande. Vous avez encore 11 jours. Vraiment, chacun dans son programme, faites cela. Faites, allez devant Dieu. Allez à la quête. Saisissez Christ. Amen.
Amen.
Père éternel, Dieu de gloire, Papa, comment te dire merci? Merci pour cette saison favorable. Merci pour ce temps de rachat. Merci, Seigneur, pour ce sang versé à la croix. Merci pour ce renouvellement. Toi qui es le Dieu de nouvelles choses. Merci au Père, parce que je prophétise que rassemblés en ces lieux, et partout où ils sont, tes enfants sont, que ceux qui se rapprocheront de toi recevront la plénitude de ton œuvre à la croix dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Ils recevront la grâce, Seigneur, et l'onction que tu déverses, qui vient de ton trône de grâce, pour nourrir tes enfants et pour les rendre aptes au Père éternel, à une marche triomphante en Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Père. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps, merci pour ce dimanche, merci pour ton peuple, merci pour les guérisons Seigneur, que tu as certainement déjà mis en route au nom du sang de Jésus. Merci parce que nous le témoignerons au Père éternel pour ta gloire. Merci au Dieu de gloire, merci pour la semaine qui commence. Merci Seigneur d'accorder ta force à chaque de tes enfants qui vraiment voudra Seigneur mettre devant toi un plan, Seigneur, de Père Tout-Saint pendant cette saison, pendant cette période, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette église, ô Père éternel. Que ta grâce et ta joie et ta paix, Seigneur, y demeure au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Encouragé. Moi, je le sens chez lui, merci au clair. Et bon, je vais revenir à des choses un petit peu à notre niveau, notre calendrier, n'est-ce pas, avant de terminer notre calendrier.